Ah mais c'est pratique ta forme de dragon, hein.
Ah, je me sens si bien avec les écailles à l'air. Et puis tu sais, c'est toujours un plaisir.
Maintenant que j'y pense, t'as toujours un sourire un peu niais quand je suis sur ton dos de dragon.
Bah, n'importe quoi.
Tant qu'à prendre forme humaine, t'aurais pu choisir des vêtements normaux.
Tu sais bien que la tenue de soubrette, c'est ma seconde peau.
Chut ! Mouvement suspect à 50 mètres, sud-sud-ouest.
C'est quoi ce bordel ?
Les zombies, ne bouge pas. Leur acuité visuelle est basée sur le mouvement.
Ah, ne me touchez pas, non !
Contact, contact, tir de suppression. Centrale, centrale, ici unité H1K5, nom de code Battle du Samouraï. Horde de zombies dans le périmètre, avons engagé le combat, demandons renfort immédiat. Crevez, bande de zombies!
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce 8e épisode hors sujet, déjà, du podcast Le Samouraï et la Soubrette. Il se trouve que dans notre précédent épisode, l'épisode 7, nous vous avions parlé de sujets un peu dur, un peu sérieux, tout ça avec le film Madoka Rebellion. Donc là, on a décidé de vous partager des trucs un peu plus légers, un peu plus lourds en termes de masse corporelle, ça dépend de l'endroit dont on parle. Et donc, on va aborder la série High School of the Dead, que l'on doit au studio Madhouse, qui a été diffusée de juillet à septembre 2010. Il existe en France une distribution physique par Dybex, donc moi je possède le coffret Blu-ray à la maison, diffusé sur Gong en septembre 2011, puis sur MCM, et Xavier a vu qu'elle avait été diffusée aussi un temps sur Netflix, mais à ce jour elle n'y est plus. Xavier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pitch, du concept de la série ?
Oui, donc le 13 avril 2010, une maladie mortelle d'origine inconnue frappe le même jour dans les principales villes du monde. C'est une maladie qui transforme tous les humains en morts-vivants. Et en fait, on va suivre l'histoire de plusieurs étudiants d'un lycée au Japon, ainsi que d'une infirmière scolaire, qui se sont regroupés afin de survivre à cet apocalypse. Zombie.
Ouh. Voilà, ça y est, le mot est lâché. Zombie. Donc, on a une saison de High School of the Dead qui représente donc 12 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Sans spoiler aucunement, la fin n'est pas vraiment une conclusion à la série, ce qui laisserait sous-entendre qu'il y aurait dû avoir une suite. En fait, l'explication, c'est que le manga, qui est le matériau d'origine, possède 7 tomes et est en hiatus, donc en gros, c'est une pause à durée indéterminée. Et en l'occurrence, en fait, elle est presque déterminée, c'est-à-dire elle est infinie, puisque depuis donc 2011, il n'y a pas eu de suite. Et le scénariste du manga, Daisuke Sato, est décédé en 2017. Le dessinateur, quant à lui, a déclaré a priori qu'il n'y aurait pas de suite de dessiné de sa part.
Oui, c'est ça, parce qu'on lui a demandé est-ce qu'il y aurait quand même quelque chose, et moralement, il a déclaré qu'il aurait du mal à continuer avec quelqu'un d'autre.
Voilà. Voilà pourquoi, sachez-le, si vous vous lancez sur la série, elle n'a pas vraiment de conclusion. La fin est très ouverte. Xavier, dans quel contexte as-tu découvert cet animé, dis donc ?
C'est de ta faute. Je connaissais l'animé de nom et de réputation. Depuis effectivement une petite dizaine d'années. Par contre, j'avais jamais vu l'animé, et il se trouve que toi tu les avais, et on les a matés un soir. Et écoute, devant le premier épisode, on a passé une soirée intéressante, dirons-nous.
On a bien rigolé quand même.
Oui, voilà.
On a bien rigolé.
Oui, c'est ça.
De mon côté, High School of the Dead, ça fait partie des tout premiers animés que j'ai vus, en fait. J'ai pas vraiment d'ordre, je sais pas s'il est dans le. J'ai dit le top 3, dans les 3 premiers, ou si c'était un petit peu après. Mais c'était du coup, effectivement, sur l'année 2010-2011. Donc là, pour le coup, j'étais dans les temps, quoi. Où j'avais commencé mes études et j'avais commencé à m'ouvrir d'esprit et à commencer à regarder des animés. Et j'avais commencé donc naturellement par les grands classiques connus de tous de nom, donc Naruto et Bleach notamment. Et il y avait eu à cette époque aussi une petite poignée d'animés à côté un peu moins mainstream. Et notamment dedans, donc il y avait les Basilisk et les High School of the Dead. Donc je les avais vus rapidement après leur sortie. Je les avais pas revisionnés du tout, pendant du coup cette dizaine d'années qui s'est écoulée. Donc je les ai un peu redécouverts avec toi, parce que même si j'avais quelques souvenirs, il me restait pas mal de choses à revoir et à redécouvrir.
Ouais, c'est vrai que pendant le visionnage, t'avais l'air à peu près aussi étonné que moi de certains tournants et de certaines... disons thématiques
oui,
abordées.
Il y a eu que rares scènes où j'ai fait ah oui c'est vrai je me souviens de ça et puis mais voilà deux trois fois quoi voilà sinon ça a été une redécouverte. Du coup je te laisse commencer pour la partie visuelle.
Alors comme je disais moi je connaissais pas School of the Dead à part sur quelques visuels et c'est un animé qui est connu pour ses personnages féminins assez dénudés aux formes généreuses, aux seins qui défient les lois de la gravité et aussi des extrêmement nombreux plans montrant dans la majorité des cas des culottes. Et oui, cette réputation est largement justifiée et j'ai même vu des hentai qui étaient plus sages en termes de mise en scène que School of the Dead. C'est assez hallucinant à ce niveau-là.
On avait mis un compteur culotte, mais il a grillé avant la fin.
C'est un truc de malade. C'est hallucinant.
On a
quoi.
Oublié de regarder ce qu'il avait affiché avant qu'il grille.
Non, mais de toute façon, je crois qu'il s'est petit suicidé. Je pense exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, le visionnage du premier épisode, moi je m'attendais à un truc genre un peu fanservice. Mais le premier épisode, il est limite irregardable tellement il y en a de partout, quoi. C'est hallucinant.
En fait, ça aurait pas été avec moi et je t'aurais pas incité, parce que moi j'avais quand même des clés là-dessus. T'aurais pas regardé le deuxième épisode.
Non, j'aurais drop. J'aurais drop après le premier épisode, complètement. Ouais.
Et ça aurait été dommage quand même. On va y venir.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a. C'était des moments où, comme tu dis, on a bien rigolé, mais des moments où j'étais en mode vraiment malaise.
Ouais, il y a un peu, donc, y a un peu de tout.
Donc voilà, ouais.
Le truc c'est que comme on en discutait, la série en termes d'animation elle est quand même par moments assez impressionnante. On a tendance à s'attendre quand t'as des trucs comme ça complètement fanservice à ce qu'il y ait que ça en fait et qu'il n'y a rien derrière. Et là il y a d'autres arguments à faire valoir quand même, notamment certaines scènes de combat qui sont super fluides, qui sont filmées entre guillemets, mises en scène de façon assez audacieuse. Et du coup des combats voilà, qui sont généreux et inventifs au niveau des chorégraphies, même si bon des fois ça permet aussi d'être inventif sur les chorégraphies de certaines parties du corps en particulier.
Oui c'est vrai qu'en termes d'inventivité
il y en a partout au moins voilà, l'inventivité elle est partout et franchement ouais du coup c'est quand même plutôt sympa à visionner. Et d'ailleurs visuellement parlant, sans même parler d'animation et de mise en scène, ça a quand même vachement bien vieilli en termes techniques, ouais, il est très propre.
Oui. Faudra rappeler certaines notions d'anatomie à certains animateurs dessinateurs. Parce que, toutes ces pauvres filles qui doivent se taper des mal de dos infernaux à force d'être constamment cambrées malgré leur poitrine de bien 10 kilos.
10 kilos par sein. Hein.
C'est hallucinant. Et puis surtout, ça va être compliqué quand même de toujours se débrouiller pour avoir un bout de culotte qui dépasse, quoi.
Ouais.
C'est de la performance artistique
au
bout d'un moment, quoi.
Non mais si tu veux en période d'activité zombie le prix du tissu augmente et du coup les mini shorts sont forcément beaucoup plus chers quand ils sont d'une longueur tolérable, donc du coup on est obligé de les raccourcir pour faire des économies. Je pense, a priori.
Quel scandale.
Du coup, on a aussi des scènes qui sont complètement gratuites avec des tenues légèrement improbables pour des adolescentes et des jeunes adultes, déjà en temps normal, mais alors surtout en situation justement de crise avec des zombies partout autour, ou un contexte où j'imagine qu'on serait plutôt du genre à s'équiper de vêtements chauds, protecteurs, avec plein de poches et d'aspects pratiques. Et là, c'est plutôt des tenues qui sortent peut-être du dressing d'un striptease. Voilà, et on va y revenir aussi parce que je sais que tu as un exemple concret en tête que je voulais sortir, mais que je te laisse l'honneur de garder pour plus tard. Ça m'arrange parce que c'est sur un perso que j'aime bien, donc comme ça, c'est toi qui le diras, ce sera pas moi.
Ça marche, ouais.
Tu voulais nous parler de l'intégration 3D,
ouais,
il me semble.
Très rapidement, un peu comme ce qu'on avait pu dire sur Black Lagoon il y a quelques temps, et d'ailleurs, c'est une série qui est assez contemporaine, je crois.
Black Lagoon, c'est 2006, si je dis pas de bêtises. Là, on est en 2010.
Ouais, la troisième saison était en 2010, c'est vrai. Et là, en fait, on a une intégration assez vraiment intelligente de la 3D, plutôt discrète, avec soit utilisée sur des personnages en arrière-plan pour les nombres, et toujours dans sur des plans qui sont en train de bouger, ce qui fait que ça amoindrit le côté uncanny valley, quoi. Et aussi sinon sur des éléments de décor décors qui permettent du coup des mouvements de caméra assez intéressants. Non, c'est vraiment bien foutu et ça ne jure jamais. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé depuis 10-15 ans pour que on soit passé d'une utilisation aussi bien sur une série qui pourtant est censée être racoleuse à ce qu'on a maintenant avec des utilisations des fois qui sont vraiment grossières. Quoi.
Ouais. Comme si on avait perdu les talents en fait, comme si on ne savait plus faire quoi. Je crois que tu voulais parler aussi de musique, c'est peut-être le temps de l'aborder maintenant.
Oui, très rapidement sur la musique de l'opening de School of the Dead qui moi je la trouve vraiment très très cool. Hein.
Ouais, moi aussi.
Voilà, moi enfin en général, je mets l'adjectif catchy dessus mais comme ça veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens, c'est en gros c'est un mélange entre vraiment guitare saturée, rythmique rock assez intense mais en même temps des voix et des riffs mélodiques. Ce qui fait que voilà, on a un peu le meilleur des deux mondes dans ce genre de titre et les Japonais savent faire et en particulier sur cet opening là quoi.
Ouais.
Par contre, visuellement l'opening, visuellement l'opening, c'est juste une suite de personnages féminins présentés dans les positions les plus lascives possibles, sachant que en plus ce sont que des lycéennes si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Parfait. Au moins ça ment pas sur le produit hein.
Oui, t'as raison, c'est scandaleux cet opening. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de culottes et il n'y a pas de peutons. C'est intolérable.
Écoute, désolé, la série ne remplit pas les fétiches de tout le monde.
Ouais,
pourtant,
vraiment...
c'est pas faute d'essayer.
Non, mais contrairement à toi, moi j'aime bien les culottes. Hein, mais bon, c'est comme toujours, tu vois, c'est comme l'alimentation, il faut varier, il faut équilibrer.
En parlant de varier, les endings.
Les endings sont très variés, ouais.
On a quand même un animé, ouais.
Oui, un animé qui se permet d'avoir l'ambition de proposer un ending différent par épisode. Donc il y en a 12.
Ouais.
Certains nous ont moins plu que d'autres. Mais faut souligner la démarche, c'est quand même intéressant. Je sais que par exemple sur Madoka, il y en a plusieurs des endings, mais il n'y en a pas un par épisode non plus. Là, ils sont lâchés.
Ouais, ouais carrément. Ouais.
Du coup, vu qu'on a parlé de musique, comme d'habitude, hein, pas grande surprise, on va passer sur les thématiques.
Oui, parce qu'il y a une question légitime qui se pose.
Oui, attends, je la pose. je joue le spectateur enthousiaste. Est-ce qu'il y a un anime qui raconte quoi que ce soit derrière cette avalanche de plans ultra racoleurs ?
Eh bien, étonnamment, oui.
Oh,
oui.
Dites-moi en plus.
Oui, voilà, en fait, c'est vrai que si pour quelqu'un qui a vu n'importe quelle œuvre qui traite de zombies, il n'y aura rien de réellement révolutionnaire ou de spectaculaire. Par contre, je trouve qu'il y a une variété de thématiques qui sont abordées de façon... Et étonnamment intéressante.
Ouais, pertinente.
Ouais, voilà, donc outre des classiques de comment on gère la transformation en zombie d'un proche, est-ce qu'il faut retrouver les proches à tout prix, ça c'est des choses vraiment, c'est dans les premiers trucs, mais des choses plus profondes comme comment s'ajustent les valeurs morales de tout un chacun quand la société est en train de s'effondrer.
Ouais.
Hein, comment on fait le maintien de l'ordre, toute une partie notamment qui se passe sur un pont sans spoiler où il y a la gestion du maintien de l'ordre parce qu'il y a des mises en quarantaine et tout et effectivement
c'est déjà moins commun dans les œuvres de qui traitent de zombies, effectivement là c'est plutôt bien traité, c'est intéressant.
Ouais. T'as aussi comment une situation exceptionnelle va rebattre les cartes quant au rôle de chacun, des choses qui étaient censées être essentielles et qui déterminer une hiérarchisation par rapport aux gens être complètement retournée par rapport à cette situation exceptionnelle où en gros c'est de la survie et ça va redéfinir les rôles de chacun. On en parlera sûrement plus pendant qu'on va aborder les personnages, mais c'est vachement intéressant.
Ouais.
Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas quoi.
Ouais.
Et puis si le fait de mine de rien on se retrouve même si c'est montré de façon glorieuse dans l'animé les séquences de combat avec j'en pense notamment à une où ça désingue dans tous les sens et il y a des balles disons qui ont des trajectoires improbables.
Non, on a déjà dit beaucoup de choses sur cet aspect de l'animé. On enchaîne
mais en gros même si c'est glorifié dans l'animé, le fait de zigouiller autant de personnes même si elles sont transformées en zombies, ça restait des humains auparavant. Est-ce que ça affecterait pas le ciboulot de tout un chacun ?
Oui. Surtout que comme les personnages n'ont a priori aucune clé sur l'origine de cette maladie, qui comme tu l'as dit s'est répandue d'un coup dans toutes les grandes villes, c'est pas comme s'ils étaient 100% sûrs que c'est irréversible et puis YOLO quoi. Mm. Tu voulais parler de la façon dont... dont ils ont mixé ça avec le reste.
Oui, parce que ouais, bon, quand bon. On dit, est-ce que derrière tout ça, il y a des thématiques ?
Ah, derrière ! Oh, belle transition, voilà. Allez, parle-nous de ça, Echo.
C'est ça, oui, c'est que quand même, la série, elle a une manière assez étrange de mixer ces questions, des fois sombres, avec soit des plans racoleurs, soit des moments de gaudriole très malvenus, soit les deux en même temps, hein, toi, tant qu'à faire.
Les deux, aussi souvent que faire se peut.
Par exemple, on va nous montrer une scène avec un père de famille devant faire des choix horribles pour protéger sa fille juste avant de mourir atrocement. Et juste après, on enchaîne avec une des lycéennes à poil vêtue d'un seul tablier en faisant la cuisine avec un gros plan sur ses fesses parce que tant qu'à faire.
Et ça...
Cet exemple-là, c'est pas genre juste un exemple isolé, c'est quasiment pendant toute la série, tu as des alternances où tu dis, tiens, on est en train de voir le truc le plus gratuit de tous les temps, je crois qu'il y a quoi, 5 minutes, on voyait un mec qui se suicide parce qu'il était dans un truc.
C'est intéressant que tu utilises le mot alterné, ouais. Parce que c'est une remarque qu'on s'est faite durant tout le visionnage de la série. Selon les épisodes, en fait, c'est la proportion de sérieux et de racolage est vraiment très variable,
oui.
Et on a des épisodes qui sont tout à fait sage et d'autres qui sont complètement abusés au niveau fanservice et même ça va au-delà du fanservice en fait. C'est curieux en fait, c'est comme si il n'y avait pas la même personne aux commandes à chaque fois et qu'en gros il y en a qui disent mais non mais ce qu'on veut c'est les gonzesses à poil et l'autre qui est là en mode mais non mais attends mais c'est zombie, c'est dur, c'est sérieux, j'ai des trucs à raconter là, fais pas chier.
C'est un scénariste schizophrène a priori.
Oui, et voilà, du coup c'est pas une évolution qui paraît très naturelle parce que autant si je devais faire un parallèle avec un animé dont on a déjà parlé rapidement avec Yamada ma première fois, où en fait on part d'un animé qui sur le début est vraiment orienté très comédie avec vagues touches d'ecchi très très sages, et en fait qui a une évolution progressive et naturelle vers de la comédie romance. Là c'est vraiment ça alterne, alors c'est pas aussi simple que dire un épisode sur deux, mais c'est un peu l'idée quoi. Ça fait les montagnes russes quoi.
Oui, il y a même un moment où on s'est dit tiens en fait finalement la série elle était ultra racoleuse au début et puis maintenant on s'oriente vers un truc
c'est
plus
bon,
intéressant
ouais. Et puis, non,
et puis
ça
d'un
revient.
Coup paf épisode je sais plus 4 ou 5 d'un coup la fête du slip
ouais.
au sens premier du terme
ouais du slip féminin quoi. Disons qu'en fait c'est comme s'ils avaient peur que tu t'endormes avec les thématiques intéressantes et que du coup de temps en temps ils rajoutaient un peu de ils en remettaient un petit peu pour te réveiller quoi. Ah c'est sûr que ça nous réveillait, enfin on s'endormait pas mais ça réveillait nos remarques quoi.
Oui c'est ça,
c'est ouais. Ça en mode oh là 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 là
sérieux
et au début je tiquais parce que justement tu faisais des remarques à voix haute comme ça et
t'as fini par les faire
ouais je me suis joint à la danse hein. Il y a pas de problème, j'admets tout à fait. Bon parlons quand même un petit peu des personnages parce que il y a quand même des trucs intéressants. Donc tu nous as parlé d'une lycéenne qui fait la cuisine avec un seul tablier. Alors le tablier déjà, c'est le tablier qui cache le bout des nichons et puis ce qu'il y a en dessous quoi. Et puis effectivement qui laisse les fesses totalement visibles. Bon, voilà. Ça c'est le personnage de Saeko, donc qui est une lycéenne qui a l'air très sérieuse et très sportive. Notamment qui se balade avec son sabre en bois et qui a l'air très très douée avec. Donc c'est un peu voilà, le personnage épéiste du groupe. Néanmoins, il y avait une thématique qui était intéressante, quelque chose qui est abordé déjà assez rarement dans les films, je trouve, et encore plus rarement dans les animés, a priori. C'est en fait, ce personnage finit par avouer de façon très franche, ne pas assumer sa transformation dans cette période où en fait elle prend complètement son pied à zigouiller des zombies avec son arme. Ouais vraiment franchement elle enjoy quoi, elle est, c'est trop cool et puis c'est quand même quelque chose de très sombre et qu'elle a du mal à s'avouer et d'ailleurs qu'elle finalement elle en parle qu'à un seul personnage autour d'elle quoi. Enfin c'est un truc la partie un peu sombre du perso qui se découvre et c'était intéressant, c'est quelque chose qui est pas souvent traité. Mais il y a un autre personnage qui ressemble un petit peu à ça, du coup je vais y venir tout de suite. C'est Kota. Bon, c'est le perso du nerd, quoi. Alors lui, il adore les armes, donc a priori on se dit qu'il a dû jouer à beaucoup de jeux, faire de l'airsoft, du paintball, etc. Donc il connaît les références des armes, les calibres, les machins, les trucs. A priori, il connaît déjà toute la théorie pour les recharger, viser, etc., etc.
Beaucoup trop d'heures sur les call of.
Mais après, il a aussi un talent inné, a priori, parce qu'il se débrouille très bien avec.
Même avec des armes non conventionnelles.
Ouais. Et il se trouve que là aussi, c'est complètement le nerd fan des armes, mais ils lui ont quand même donné autre chose en plus. Là aussi, qui est intéressant, c'est que du coup, il se découvre, enfin, une pas l'amour des armes, parce qu'a priori il connaissait déjà, il savait déjà qu'il aimait ça, mais il se découvre une utilité en fait. Et il y a donc, bon, pareil sans spoiler, mais en gros à un moment donné où on essaye un peu de lui piquer son arme quoi, et enfin il est là en mode, mais non, parce que enfin moi j'ai besoin de ça pour être utile quoi, c'est ma raison d'être quoi, donc
oui, soyons clairs, ça, il considère que sa vie avant ça c'était de la merde,
voilà, et donc là il se redécouvre un sens, une utilité, et du coup c'est intéressant aussi, c'est plus que juste un fan des armes. Il y a aussi, j'ai trouvé assez intéressant même si un peu moins exploité, c'est Saya avec ses petites couettes roses là, donc que tu avais décrit comme la gosse de riche.
C'est une elle est décrite quand même sur les premiers épisodes quand même une sacrée chieuse,
ouais, et qui est un personnage qui est quand même malgré tout donc qui est assez cartésien, assez intelligent, assez perspicace, alors
c'est plutôt des bons choix,
ouais, hein. Ouais, elle a un très léger aspect légèrement tsundere sur certaines réactions par rapport à des personnages, mais bon, c'est vraiment bien dosé quoi, on est très très loin par exemple de Shana, de Shakugan no Shana ou de Toradora quoi,
ouais, non, c'est pas maladif chez elle,
voilà, et y a quand même un petit développement à un moment donné où on développe sa relation avec certaines personnes dont elle est proche, et alors donc comme on l'a dit, l'animé il n'y a pas vraiment de conclusion etc, je pense qu'ils auraient eu le temps de plus développer ça s'il y avait plus d'épisodes. Mais le peu qu'on a vu, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, voilà. Après, bon, le reste des personnages, pas forcément grand chose à dire. Je vais peut-être préciser qu'il y en a deux qui sont complètement inutiles. Donc, la prof infirmière. Et puis, la petite gamine, là, qu'ils ont récupérée.
Elle arrive assez tard. Non,
ouais,
elle arrive assez tard, mais de toute façon, vu ce qu'elle sert, c'est
voilà,
pas très grave.
Donc, voilà. Bon, après, les autres persos, sinon, pas grand chose à redire. On conclurait pas par un petit peu de VF là après ce long tunnel de ma part?
Oui, effectivement c'est une série qu'on a vue en VF. On pensait très honnêtement, même moi qui suis Captain VF, je pensais qu'on allait regarder un peu en VF, rire un bon coup et puis après repasser ça en VO parce que ça aurait été assez mauvais, parce que j'étais persuadé que vu le produit qui ressemblait plus à un hentai qu'à un animé traditionnel, on aurait quelque chose de relativement bâclé en termes d'adaptation,
mmh, ouais.
Et pas du tout.
Pas du tout.
Alors sans que ça soit un doublage exceptionnel, c'est plutôt propre en fait, avec des personnages qui sont bien castés, en tout cas des acteurs qui correspondent bien aux personnages, et des changements de ton qui sont bien respectés, comme voilà, c'est une série qui reste assez alternative entre les choses assez gratuites et les moments plus durs, et à chaque fois c'était sans être ultra prenant, c'était très crédible en termes d'interprétation.
Ouais, c'était propre. Hein.
Voilà, alors pour les voxophiles, hein, sachez que c'est un doublage avec un casting essentiellement belge, dont notamment Tony Lopresti, qui est la voix attitrée de Pierre dans tout ce qui ressemble à toutes ses apparitions dans Pokémon, ou pas loin, j'ai pas vérifié si c'est tout, mais il est dans vraiment un sacré paquet d'apparitions de
et
ce personnage. Ouais.
Ouais. Ok, bon, c'est ainsi que va se conclure ce huitième épisode hors série, donc sur High School of the Dead. Est-ce que, Xavier, tu as un mot de la fin?
Un mot de la fin?
Ouais.
Pensu!
Oui, Pensu.
C'est pas vrai, tu parles exactement comme ma mère! Je le sais bien, je le sais pertinemment que mes parents sont les meilleurs. Dès qu'ils ont réalisé ce qui était en train de se passer, ils ont pris des dispositions pour protéger la maison, nos employés et leur famille. Extraordinaire, vraiment! Oui, ils sont absolument géniaux! Ils sont tellement géniaux qu'ils ont pensé à tout ça avant toute autre chose, même avant leur fille, bravo!
Arrête, Saya, tu veux?
Ce sont des parents merveilleux, ça oui! Je reconnais bien là mon père et ma mère! Comme je ne pouvais pas avoir survécu, ils se sont vite résignés, n'est-ce pas?
Ça suffit maintenant!
Takeshi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! Takeshi!
Il n'y a pas que toi dans cette histoire, il y a nous aussi.
Non,
nous sommes tous dans le même pétrin! Tu entends? Et ce n'est même pas vrai parce que toi au moins tu sais que tes parents sont en vie! Tu es la mieux lotie de nous tous! Et tu te plains!
Lâche-moi, s'il te plaît, maintenant.